Après, Kriyat Yamsouf, après le passage de la mer, Pasouk dit Vayamin ou Bashem ou Moshe Avdo. Les Bnei Israël ont eu confiance en Hachem et en Moshe son serviteur. Ici, à ce moment-là, de Kriyat Yamsouf, Moshe est appelé Avdo, il est appelé le serviteur d'Hachem. On a très bien pu avoir Yamin ou Bashem ou Moshe. Pourquoi est-ce que ici on dit spécifiquement Avdo, qui est son serviteur? On va parler un peu justement sur ce qualificatif ici de Eved, d'esclave, de serviteur d'Hachem, qui lui est attribué juste à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi tout à coup on dit ici que Moshe est le serviteur d'Hachem? Il est le serviteur d'Hachem dans tout le processus de la sortie d'Égypte. Pourquoi justement à ce moment-là on le mentionne? Pour comprendre comment ça fonctionne, le Rav Yitzhak Koutner va mettre bout à bout plusieurs éléments. Dans la tfila, dans la prière de Shacharit, de Shabbat, dans la Mida, nous disons « Ismach Moshe b'matnat chelko » Moshe se réjouit lorsqu'on lui a donné sa part « Ki eved ne'eman karatalo » Parce que toi, Hachem, tu as nommé Moshe, tu l'as appelé « Eved ne'eman » le serviteur fidèle. Beomdol fanecha quand al Har Sinai. Il y a lieu de s'étonner ici, parce que dans Mamad Har Sinai, quand on regarde le texte du moment Sinai, on voit nulle part que Moshe soit appelé Evet Neeman à cet endroit-là. Alors il dit, on peut se donner comme explication que la Kavana, l'intention de ce texte qui dit qu'il est Evet Neeman ou Har Sinai, c'est de dire que le lieu dans la Torah où Moshe est appelé Evet Neeman, c'est au moment où Hachem fait des remontrances à Aaron et à Myriam, qui ont dit du mal de Moshe, ont critiqué la façon dont il s'était séparé de son épouse. Et Hachem leur dit qu'à ce moment-là, mais Moshe, il est Neeman b'chol beti, il est Neeman dans toute ma maison. Il est fidèle, il est absolument fidèle en quelque sorte. Comme je vous le dis, cette paracha, ce moment où Hachem a dit de Moshe qu'il était Neeman, concerne le fait que Moshe s'est séparé de son épouse. Et on a l'impression de ce texte que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est séparé de Tzipora à ce moment-là, c'est parce qu'il était un Eved Neeman, parce qu'il était un serviteur fidèle. Et puisque c'est au Sinaï que Hachem a dit à Moshe, dis au Bnei Israël, après le Sinaï, que tout le monde retourne chez soi, qu'ils retournent auprès de leurs épouses, Ve'ata, quant à toi, Po Amodimadi, toi, reste avec moi ici. Après qu'Hachem ait parlé, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu vas rester ici et je vais t'enseigner toute la Torah. Donc justement, ici Hachem a dit à Moshe quelque chose de l'ordre du maintenant, toi, eux se sont séparés pour 3 jours de leurs épouses, et toi, tu restes maintenant avec moi, donc tu restes dans cet état de séparation par rapport à ton épouse. Et donc, on voit que si Eved Neeman est à rattacher à la prishut, au fait qu'il se soit séparé de son épouse, alors au Sinaï, puisqu'il s'est séparé de son épouse, alors il faut rattacher il faut dire qu'à ce moment-là, il est Eved Neeman, puisque Eved Neeman, ça va de pair avec cette notion de séparation. Donc on a récupéré Eved Neeman au Sinaï, comme on le dit dans la prière de Shacharit de Shabbat. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il est dit dans la fin de Zot HaBracha, il dit Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. On parle de la mort de Moshe. Le texte dit Moshe Rabbeinu est mort là-bas, Moshe Eved Hashem, serviteur, esclave d'Hachem. Ce titre d'ici, de Eved Hashem, qui lui est donné à Moshe Rabbeinu au moment où il disparaît, le Sifri le commente en disant Lo bignuto shel Moshe akatuv medaber. Et la bishvacho. Le verset ne parle pas ici négativement de Moshe. Ce terme-là est dit pour en faire l'éloge. Parce qu'on voit bien que les Nevi'im, que les prophètes, sont appelés avadim, ils sont appelés serviteurs, esclaves. C'est marqué dans le passouk qu'il y a assez Hachem d'avar, Hachem ne fera rien sans l'avoir préalablement annoncé El Avadav Hanevi'im, à ses serviteurs, ses esclaves, les prophètes. Alors il dit, c'est un peu étonnant que le Sifri ait eu, ne serait-ce qu'une Hava Amina, que le Sifri ait pensé un seul instant que le titre, enfin, que de dire de Moshe qu'il était Eved Hashem, se pourrait être négatif à son égard. Au point que le Zifri apporte une preuve. Non, c'est positif. Et d'ailleurs, on voit que les prophètes sont appelés Avadim. Comme si, dans ce titre de Eved d'Hachem, il y avait quelque chose de négatif, en fait. Ou plus exactement, il y a en tout cas une possibilité de le nier négativement. Alors, il faut l'entendre comme ça, dit-il. Dans la Gemara, dans Masechet Brachot, on rapporte Maaseh b'Rab Chanina ben Dosa. Bord que Rabbi Chanina ben Dosa, she'alach l'ilmod Torah etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est allé apprendre la Torah chez le grand maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le grand maître de l'époque. Vechala beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et un fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est adressé à son élève, Rabbi Chanina ben Dosa, et il lui a dit, Chanina beni, bakesh alav rachamim v'yichye. Prie pour lui et il vivra. Donc Rabbi Yochanan dit à son élève, prie pour mon fils et mon fils vivra. Alors Rabbi Chanina ben Dosa a mis sa tête entre ses genoux et il a prier, et l'enfant a vécu. Alors là-dessus, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, Ilu itiach ben Zakkai et Rosho ben Birkav kol ayom kulo lo ayom ashgichim alav. Il a dit sur lui-même, il a dit, si j'avais mis ma tête entre mes genoux et que j'ai prié pendant toute la journée, j'aurais pas eu de réponse. Le ciel ne se serait pas occupé de moi. Et lui, il a fait une prière et ça a marché. Alors, Amra lo ishto, la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui a dit, Véhi, est-ce que Hanina est plus grand que toi? Il lui a dit non, il n'est pas plus grand. Mais lui, il est Eved lifne Amelech. Lui, il est comme un serviteur, comme un esclave devant le roi. Et moi, je suis comme un prince devant le roi. Et Rashi explique, le Eved, il est beaucoup plus intime que le prince. Il est ce qu'on appelle Ben Bait, il est complètement intime, il entre dans l'intimité du roi. Il entre et il sort quasiment comme il veut. Et Rashi, quand il commente les mots de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui dit je suis comme un prince devant le roi, il explique, il dit j'ai pas l'habitude, c'est comme un prince qui a pas l'habitude de venir à tout bout de champ devant le roi. C'est-à-dire que lui, quand il vient, il faut qu'il demande une audience, et puis après on lui accorde cette audience, et il faut qu'il vienne, ça, il y a tout un cérémonial pour qu'il arrive devant le roi. On comprend ici que Tzadiké Adorot, les Tzadikim dans toutes les générations, et Chassidé Elion, entre ces gens-là, il y a des aspects complètement différents. Il y en a qui sont perçus comme des princes devant le roi, et certains d'entre eux, sont perçus comme des serviteurs, comme des esclaves du roi. Et on voit de cette Gemara dans Brachot que c'est des catégories exclusives, semble-t-il. On ne peut pas être à la fois l'un et l'autre. D'après ça, si nous entendons l'expression Eved Hashem qui est dite sur Moshe Rabbeinu en tant que niveau, enfin indication du niveau de piété, de Gdusha, de Chassidut de Moshe Rabbeinu, alors effectivement on pourrait dire quelque chose, on pourrait entendre là quelque chose de négatif sur Moshe Rabbeinu par rapport au niveau prince. Bon, c'est comme Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à son épouse, Chanina, il n'est pas aussi grand que moi. Mais il est un Eved. Et le Eved, il peut entrer quand il veut. C'est sûr que le prince, il est plus élevé que le Eved. Mais il y a certaines fonctions ou certaines choses que le Eved peut faire que le prince, malgré toute sa grandeur, malgré toute sa supériorité par rapport au Eved, ne pourra pas faire. Et donc, prince, c'est donc plus élevé que Eved. Et si on dit de Moshe qu'il est Eved, alors il n'est pas prince. N'est-ce pas ? Donc, on pourrait l'entendre ici, ce qualificatif de Eved. Hachem, Moshe Rabbeinu meurt en tant que Eved d'Hachem, c'est-à-dire il meurt mais il n'est pas un prince devant Hachem. Ça c'est si nous entendions ce qualificatif de Eved Hachem dans ce sens-là. Et c'est ça en fait, c'est comme ça que l'entend le Sifri. Le Sifri qui dit attention, ça n'est pas On n'est pas en train de dire quelque chose de négatif au sujet de Moshe Rabbeinu. Ce qui est dit là est dit comme shevach, c'est dit comme louange de Moshe Rabbeinu. Et donc nous, on se dit, mais pourquoi le Sifri vient nous dire ne te trompe pas? C'est parce qu'il y a la possibilité de le lire de cette façon-là, et que Eved, ce serait inférieur à Sar, et par conséquent, on est en train de dire quelque chose de Moshe Rabbeinu, du genre, bon, Moshe Rabbeinu, pas mal, mais on peut faire mieux. Il y a des princes, lui, il n'était pas un prince. Non, mais ne prenez pas prince au sens propre. Il a seulement voulu dire qu'il n'avait pas. Que ici, prince veut dire celui qui est peut-être, enfin, qui est plus haut dans une forme de hiérarchie, la hiérarchie de la Torah, par exemple, de l'étude. On voit bien que Rabbi Hanina, il vient étudier chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, a priori, Rabbi Yochanan est plus grand que lui. Et c'est vrai, mais c'est la question de l'épouse de Rabbi Yochanan, c'est de dire, mais pourquoi tu lui demandes à lui? Pourquoi tu n'as pas prié toi-même? Il dit, parce que moi, ma prière, elle n'a pas cet impact. Parce que la prière, c'est un problème de proximité. Moshe Rabbeinu, si on l'avait lu comme ça, on aurait pu dire, mais le Sifri dit, ne te trompe pas. Je ne suis pas en train de te dire que Moshe Rabbeinu était inférieur à quelqu'un. Je ne te parle pas d'une éventuelle infériorité. On ne nous a pas encore dit exactement, il a seulement dit que les prophètes sont appelés Avadim. Donc le Sifri vient dire, il n'y a absolument aucune connotation négative dans ce que je suis en train, dans ce que dit le texte de la Torah à ce niveau-là. C'est-à-dire que la avdout, le fait de dire qu'il est Eved, est un qualificatif, mais ça n'est pas celui de Chassidut ou de Gdusha, ce qui de piété ou de sainteté, si vous voulez, mais c'est un qualificatif qui vient dire que qu'il faut entendre différemment. On va voir maintenant tout. Dire que Moshe était Eved Hashem ici, ça veut dire que Moshe ne servait pas Hachem par piété ou par sainteté, mais parce qu'il était son prophète. C'est ce que le Sifri dit, les prophètes sont appelés Avadim. Donc c'est ce que dit le Sifri donc. Et le Sifri s'est appuyé sur le passouk qui dit que Hachem ne va rien faire sans en avoir préalablement averti le prophète. Ce verset vient nous dire que en plus du niveau de prophétie qui a été donné à chacun des prophètes, ils ont encore une forme de promesse que Hachem leur dévoile la façon dont ils gouvernent le monde. Un prophète, c'est quelqu'un qui sait. comment Hachem gouverne le monde. Parce qu'Hachem ne veut pas le lui cacher. Et ça semble-t-il, ce savoir-là, ça n'est pas directement, ça n'a pas directement à voir avec la prophétie. C'est pas en tant que, c'est pas pour fonctionner comme prophète qu'il sait cela. Mais quelque chose du genre, ces personnages-là, à l'égard de ces personnages-là, je n'ai pas de secret. C'est un peu ce que Hachem dit. Je n'ai pas de secret par rapport à ces gens-là. Donc cette idée-là, qu'Hachem n'a pas de secret pour les prophètes, c'est ça le témoignage de la fidélité des prophètes par rapport à Hachem. Parce que à l'égard de qui est-ce qu'on n'a pas de secret? À l'égard de celui dont on sait, dont on est certain, qu'on peut lui dévoiler les secrets. Dévoiler son secret à quelqu'un, c'est faire l'hypothèse, enfin ça n'est possible que si on fait l'hypothèse que cette personne-là sera suffisamment fidèle pour ne pas en faire mauvais usage. Et donc, ça veut dire que les prophètes, quand ils sont appelés Eved d'Hachem, ils ont un niveau qui est supérieur, qui vient en plus de leur degré de prophétie, puisque ça n'est pas directement lié à la prophétie, mais que c'est révélateur de leur qualité de serviteur fidèle. Et les... N'est-ce pas, le verset aurait très bien pu porter simplement que « Ki lo yaaseh Hashem davar, ki im gila sodo el hanvim » Hachem ne fait rien sans avoir dévoilé son secret au prophète. Mais le pasouk ne dit pas ça. Le pasouk dit qu'Hachem ne fait rien sans avoir dévoilé son secret à qui? El avadav hanvim. À ses serviteurs, les prophètes. À ses esclaves, les prophètes. Pourquoi ici est-ce qu'on met l'accent sur avadim? C'est bien que être prophète à soi tout seul ne justifierait pas qu'Hachem dévoile. On voit que la notion de Avdout qui s'ajoute à la notion de prophète n'est pas à entendre ici comme quelque chose qui indiquerait la piété ou la sainteté du personnage, mais que ça a à voir avec, sans que ça soit à l'intérieur de la prophétie, mais ça a à voir avec leur fonction de prophète, peut-être. Et donc, quand on ajoute Eved à Navi, esclave, serviteur, on ajoute ça à la prophétie, c'est que ce prophète, il est à considérer comme la domesticité du roi. C'est-à-dire, ces gens qui ont qui entrent dans l'intimité du roi. Donc ceux à l'égard desquels le roi n'a pas, peut-être parce qu'il ne peut pas, avoir de secret. Parce qu'ils sont tout le temps là, ils ont toujours les oreilles qui traînent, ils connaissent, ils touchent tout. Il est fait aussi là-bas. Et donc, maintenant que nous avons vu que cette notion de Havdout, lorsqu'elle vient s'ajouter à la notion de prophétie, à la puissance de la prophétie, sert à dire la fidélité du personnage par rapport à Hachem. Alors, on comprend que cette fidélité, elle est en rapport direct, comme on a vu avec cette puissance de prophétie, et d'une certaine manière, selon le niveau de prophétie, le niveau, on a le même niveau en fidélité. Et donc ça irait très bien avec ce que tu dis, d'accord, que après qu'on ait dit qu'il est Eved Hashem, on dit, eh bien, dans la catégorie des Avdei Hashem, il est le plus haut, puisqu'il est le plus haut dans la catégorie des Nevi'im. Parce qu'on dit Lokam. Et par conséquent, quand nous regardons ce qualificatif, ce titre de Eved qui est là accordé à Moshe Rabbeinu, il faut l'entendre comme indiquant une fidélité d'un genre, une fidélité tout à fait particulière, de la même manière que la nevoie de Moshe est tout à fait particulière. Quand on dit qui Eved Neeman Karatalo, il n'est pas seulement Eved, mais il est Eved Neeman. Le titre est. Normalement, tout Eved du roi doit être fidèle. Parce que s'il n'est pas fidèle, on est obligé de le jeter. Ou ça se trouve même de le tuer. Parce qu'il sait des choses. Et s'il n'est pas fidèle, c'est un danger public. Il met le royaume en danger. Dire qu'il est Eved Neeman, alors ça pourrait passer quasiment comme une redondance. Et donc c'est bien pour montrer que tous les prophètes, quand ils sont appelés Avadim, ils sont fidèles, mais Moshe Rabbeinu, il mérite le titre de Eved Neeman. Il est le Eved fidèle par excellence, puisqu'il est le prophète par excellence. D'ailleurs, Hachem le précise, quand il dit à Aaron et à Myriam, il dit « Bechol beti ne'emanu ». Il est fidèle dans toute ma maison, ça veut dire il y a probablement des avadim qui sont attachés à la, je ne sais pas, à la chambre du roi, et d'autres qui sont avadis, qui sont attachés à la table du roi, et d'autres qui sont attachés au, je ne sais pas, au bureau du roi, etc. Lui, il est bechol beti ne'emano. Dans tous les domaines, il est fidèle. Donc, il a accès à tous les domaines parce qu'il est totalement fidèle dans tous les domaines. Ça, c'est mon cher Abin. Tu veux dire aucun doute parce que la fidélité, c'est vu. Oui, tout à fait. Ah, oui, oui. Bon, enfin, oui, 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 tout à fait. Je ne sais pas ce que veut dire aucun doute, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu un moment quand même où Moshe Rabbeinu, en tout cas au début de sa carrière, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, il lui dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé, depuis que je suis intervenu, la situation s'est aggravée pour les Bnei Israël. Et à ce moment-là, il s'en prend plein la figure, puisqu'Hachem lui dit à ce moment-là, « Chaval al de'avdin velo mishtakrin, c'est malheureux de devoir travailler avec toi et de ne pas pouvoir travailler avec les avot. » Les avot, au moins, quand eux, je leur ai fait des promesses, ils n'ont pas vu le commencement du début de la réalisation des promesses, mais ils sont restés complètement fidèles. Et toi, je t'annonce qu'on est dans la période de réalisation des promesses, et puis parce que ça ne va pas exactement comme tu le veux, tu commences à faire des... tu viens, tu me fais des reproches, etc. Hachem me dit, c'est quand même malheureux de devoir travailler avec toi. C'est pour une autre raison. Et donc, là on peut dire, il je ne sais pas si tu appelles ça un doute, il a un doute sur mais qu'est-ce qu'Hachem veut là dans cette affaire. Alors, ça c'est au tout début de la carrière, enfin début, c'est le début de la carrière de Moshe Rabbeinu comme intercesseur, c'est-à-dire que c'est ses premiers pas lorsqu'il va parler au nom d'Ebné Israël. Pour la première fois, il va chez Paro, il lui dit je parle au nom d'Hachem, ni Bechori Israël, etc. et laisse partir l'Ebné Israël. Sinon, et tac, Paro dit à quoi vous avez encore le temps de penser? Pensez à servir, pensez à votre Dieu, etc. Tour de vis supplémentaire pour que vous n'ayez plus le temps de penser. Bon, et donc la situation s'aggrave, il faut fournir la même quantité de briques, mais il faut aller chercher soi-même la paille, etc. Et donc la situation devient intenable. Elle est intenable, et Moshe Rabbeinu se retourne contre Hachem, il dit, mais tu m'as envoyé quoi, pour aggraver la situation. Donc bien que tous les prophètes soient qualifiés de fidèles, lui il est fidèle entre les fidèles, parce qu'il est fidèle dans toute ma maison. Donc ça veut dire ici qu'il y a une fidélité, il y a un degré de fidélité qui est le degré suprême de fidélité auquel Moshe a accédé. Finalement, Eved Neeman, c'est un titre qui n'existe que pour Moshe. Eved, qui veut déjà dire, qui suppose la fidélité, c'est un titre qui est accolé à quasiment tous les prophètes. Mais Eved Neeman, qui est presque la redondance, parce qu'il faudra dire le Neeman, Neeman de chez Neeman, quoi, c'est... Il n'y a pas plus Néman que lui. Ça, c'est un titre, évidemment, qui n'est appliqué qu'à mon cher Abbé. Et donc, puisque c'est ainsi, alors, bien que nous ayons appris que, d'une certaine manière, être évêque, c'est quelque chose qui, bien qu'étant inférieur à tsar, inférieur à prince, a néanmoins une supériorité sur le prince dans le domaine de la prière. Bon, c'est ce que Rav Hanina, c'est pas ce que Rav Hanina a dit, mais c'est ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à son épouse. Bon, pourquoi est-ce que je lui ai demandé à lui de prier? Parce que sa prière à lui est plus efficace que la mienne. Et il est tout à fait conscient. Il dit, moi je suis comparable à un prince dans la maison du roi. Lui, il n'est qu'un évêque dans la maison du roi, mais du point de vue de la prière, c'est supérieur. Donc ça, peut-être, ça n'existe que quand on est évêque. Mais que quand, ça n'existe que quand le mot évêque fait référence à la chassidoute, à la piété ou à la sainteté de la personne. Mais quand le mot Eved ne fait pas référence à la piété ou à la sainteté de la personne, mais va de pair avec la nevoie, avec la prophétie. Alors, dans Eved, entendu de cette manière-là, il n'y a aucune connotation péjorative. Parce que ce Eved-là ne s'oppose pas à un tsar. Ce Eved-là ne s'oppose pas à un prince. N'est-ce pas, la fidélité d'un Eved est, il faudrait presque dire, elle est plus grande que celle d'un prince. Le prince, il a ses fraîches bonnottes. Le Eved, il est au service du roi. Être prince, ça n'a pas de rapport avec la fidélité obligatoire. Et c'est ça que dit, je pense, le Sifri. Sur Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, Velo Bignuto, on n'est pas en train de parler négativement de Moshe Rabbeinu. Puisqu'on trouve ça, on trouve Eved chez tous les prophètes. C'est-à-dire, ne pense pas, ou ne dis pas, que la kavana ici, l'intention de ce verset, c'est de parler de la sainteté de Moshe Rabbeinu. Puisque, si on parlait de sainteté, de chassidut, de piété, alors on a le couple hiérarchisé et séparé Eved, prince. La Kavana ici, c'est d'entendre, enfin il faut entendre ici Eved au sens d'un titre qui vient s'ajouter à celui de prophète. Alors, si on y regarde d'un peu plus près, alors, dit Avitra Koutner, on peut ajouter à cela quelque chose dont il a déjà parlé ailleurs, qui dit que au moment de Kriyat Yamsouf, au moment du passage de la mer, la puissance de Moshe Rabbeinu, en tant que Dayan Alpia Dibour s'est manifesté, et qui est que de ce qualificatif que Moshe Rabbeinu a acquis au moment du passage de la mer, c'est là qu'on déduit que Moshe Rabbeinu pèse autant que les 71 membres du tribunal. C'est-à-dire que si dans un tribunal Moshe Rabbeinu est présent, donc il y a deux personnes en plus de lui, alors ce tribunal vaut Sanhédrin. Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, il n'est pas le Sanhédrin. Mais si lui est dans un tribunal minimum, c'est-à-dire un tribunal de trois personnes, alors ce tribunal a le poids du Sanhédrin, le poids du tribunal de 71. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu apporte à un tribunal déjà existant. Il ne vaut pas tribunal, mais il donne le poids 71, c'est-à-dire Sanhédrin, le grand Sanhédrin, à un tribunal déjà existant. Ça, c'est un chidouche qu'il a expliqué ailleurs, sur lequel on va le prendre comme ça. Je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler. Et donc, si on compte, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quelle est cette madrega, quel est ce niveau de Moshe Rabbeinu au moment de Kriyat Yamsouf, puisque c'est là-dessus que on a commencé. Il y a Aminu Bashem ou Moshe Avdo. La Gemara dans Sanhedrin, la Gemara dit « Akovesh nevuato » il y a une halakha qui dit qu'un prophète qui reçoit une prophétie et qui ne délivre pas, enfin, qui ne va pas donner cette prophétie au peuple, il ne va pas dire à celui auquel il doit le dire, que ce soit le roi, le peuple, etc., cette prophétie, il est chayav mita, il est passible de mort. Alors, la Gemara, elle dit, mais pour pouvoir le condamner, il faut des témoins qui l'avertissent, qui lui disent, si tu ne dis pas ta prophétie, tu es passible de mort. Alors, la Gemara demande, mais qui va l'avertir? Personne ne sait. Il a une voix, il la garde pour lui. Personne ne sait qu'il a une voix, qu'il a une prophétie, qu'il a gardée pour lui. Comment est-ce qu'on va... Comment les gens vont pouvoir savoir qui va faire la hatra? Alors Abaye dit, ben c'est ses collègues prophètes. Agmara dit, mais d'où il saurait? C'est pas... La prophétie, elle ne... Quand elle s'adresse à un prophète, tous les autres ne savent pas, obligatoirement. Vous savez bien que, par exemple, Yitzhak Avinu était un prophète et il savait pertinemment que Yosef n'était pas mort, mais il n'en a rien dit à Yaakov, il n'avait pas le droit de le lui dire. Un prophète, s'il a reçu une voix et qui n'est pas une voix qu'il doit dire, il n'a pas le droit de la dire. Ça marche des deux côtés. Ne pas dire une voix qui est faite pour être dite, ou dire une voix qui est faite pour ne pas être dite, c'est tout autant interdit. Alors l'Agma répond, il y a assez Hachem d'avar qui im gila sodo el avadav anvim. Alors, on va dire, il apporte ce fameux pasouk qui dit qu'Hachem le fait connaître à ses serviteurs, les Nevim, donc les autres Nevim le savent, ou d'autres Nevim le savent. Alors la Gemara a dit, mais peut-être qu'il a changé d'avis. On a dit, mais s'il avait changé d'avis, eux, ils l'auraient su aussi. Qu'est-ce qu'on voit de cette discussion dans la Gemara? On voit qu'il y a une règle que quand un prophète reçoit une prophétie, alors bien que les autres prophètes le savent ou d'autres prophètes le savent, bien que cette prophétie ne les concerne pas. C'est pas eux qui doivent aller parler. C'est pas que, il faut qu'un d'entre vous aille parler. On voit très bien que cette règle-là, ne concerne les autres, ne concerne que les autres Nevi'im. Parce que les autres, les autres Nevi'im, on veut dire à l'exception de mon cher Rabbeinu, parce que les autres Nevi'im, ils ont tous le même genre de nevoie. Tous, sauf Moshe. La nevoie de mon cher Rabbeinu, elle est d'un genre différent. Par exemple, le Rambam, dans les Shlosh Esrei Ikarim, il a un Ikar sur la nevoie de Moshe, et un écart sur les autres Nevi'im. La nevoie de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle est? C'est Torah. La nevoie de Moshe Rabbeinu est devenue Torah. La nevoie des autres Nevi'im n'est pas devenue Torah, elle est devenue éventuellement Nevi'im, ou Ktuvim, bon, mais pas Torah. Donc, les autres prophètes ne savaient pas quand les prophéties, quand la prophétie s'adresse, enfin, venait à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu recevait une prophétie d'Hachem, il y avait d'autres prophètes, Aaron, Myriam et d'autres. Mais eux ne savaient pas. Contrairement à ce qu'on a dit sur les autres prophètes, ce qui semble sortir curieusement de la Gemara dans Sanhedrin, qui est un peu contradictoire avec l'exemple que je vous ai donné. Mais en tout cas, chez Moshe Rabbeinu, ce n'était pas comme ça. Pourquoi ? Parce que la nevoie des, encore une fois, la nevoie de Moshe Rabbeinu et la nevoie des autres prophètes sont des nevoies de type complètement différent. C'est pas du tout la même chose. Seulement, il faut ajouter que tant que la prophétie de Moshe Rabbeinu fonctionnait avec des signes et des miracles, c'est-à-dire comme les autres prophètes. Alors, pendant ce temps-là, Moshe Rabbeinu était comme les autres prophètes, et les autres prophètes savaient quand Moshe Rabbeinu avait une prophétie. C'est seulement à partir du moment où la nevoie de Moshe Rabbeinu est devenue complètement différente de celle des autres, c'est-à-dire elle est devenue Torah, à ce moment-là, la règle que les autres prophètes savent, cette règle ne s'applique plus pour la nevoie de Moshe, comme on l'a dit plus haut. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une singularité de la nevoie de Moshe. Avec le principe qu'on a établi plus haut, ça veut dire qu'il y a une singularité dans la fidélité de Moshe. Et c'est la notion de fidélité, de Eved, elle va de pair avec le niveau de prophétie. Donc, la fidélité de Avadav Hanviim, c'est le même degré de prophétie, c'est donc le même degré de fidélité. Fidélité de Moshe Rabbeinu, comme elle est en fonction du degré de prophétie, et que la prophétie de Moshe Rabbeinu est sans commune mesure avec la prophétie des autres, eh bien la némanout de Moshe, la fidélité de Moshe, est elle aussi sans commune mesure avec la fidélité des Neviim, des autres Neviim. Et ça, c'était pas tellement évident, puisque c'est au fond ça, l'erreur d'Aaron et de Myriam. Quand Aaron et Myriam ont parlé contre Moshe, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, nous aussi, nous sommes également prophètes, et nous n'avons pas pour autant décidé de nous séparer de nos conjoints. Pourquoi est-ce que Moshe, ils ont inflige à cette pauvre Tzipora une souffrance qui n'est pas nécessaire qu'il lui inflige ? Il n'a qu'à continuer de... Et c'est ça que Hachem leur répond. Il dit, mais vous avez complètement... Vous vous trompez complètement. Vous vous imaginez que votre prophétie est du même ordre que la prophétie de Moshe Rabbeinu. Ça n'a rien à voir. Moshe Rabbeinu, Bechol Beti Ne'emanu. C'est même, au fond, de cette manière-là que c'est en parlant de Ne'emanut qu'il leur a expliqué que la prophétie de Moshe Rabbeinu n'avait rien à voir avec la leur. Hachem ne leur a pas dit, sa prophétie, elle est différente de la vôtre. Il leur a dit, Bechol Beti Ne'emanu. C'est-à-dire, sa fidélité est complètement différente. Donc, on voit très bien cette équivalence entre fidélité et prophétie. Et donc, pour revenir à Kriyat Yam Souf, C'est à ce moment-là, comme on l'a vu, comme il l'a cité, ce qu'il avait établi, c'est au moment de Kriyat Yamsouf que le degré de prophétie de Moshe Rabbeinu change du tout au tout. C'est à ce moment-là, comme on l'a vu, qu'il devient aussi important, enfin qu'il a cette capacité de changer un tribunal en un Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il pèse aussi lourd que 71 Dayanim. Et donc, puisque sa nevoua change à ce moment-là, alors sa fidélité change. Et à ce moment-là, plus personne non plus ne sait ce que Moshe Rabbeinu reçoit comme nevoua. Puisque quand, à ce moment-là, il n'est plus un avis comme les autres, il est singulier dans sa nevoua, et puisqu'il est singulier dans sa nevoua, il est singulier dans sa fidélité. Et à ce moment-là, la règle qui dit que quand un avis reçoit une nevoua, les autres sont au courant, ne s'applique plus à lui. Sorti d'Égypte et Kriyat Yamsouf. Et Matan Torah. Non, les Bnei Israël vont recevoir, par exemple, déjà une partie de la Torah à Mara, par exemple. Au moment des eaux amères où Moshe a adouci avec le bâton, en jetant le bois dedans, c'est déjà un degré de prophétie qui donne de la Torah. Puisqu'à Amara, on a reçu Shabbat, Shabbat Vahem, etc. Et donc c'est ça le... À ce moment-là, Moshe devient vraiment Eved Hashem, c'est-à-dire non pas Eved Hashem au sens, encore une fois, de la Kedusha et de la sainteté du personnage, mais c'est un degré de prophétie qui va de pair avec ce degré de fidélité. Ce degré de fidélité, il s'exprime en disant Eved. Le Eved, pas du tout par opposition au Sar, mais Eved au sens de celui qui auquel Hachem dévoile ce qu'il va faire. On peut ajouter ça, dit la chose suivante, dit Sra Koutner. Au début du livre de Yoshua, au tout début, donc on rementionne Moshe Rabbeinu, et là aussi, Moshe Rabbeinu est présenté comme le Eved d'Hachem. On dit aussi qu'il est Eved. Même chose à la fin du dernier livre, enfin, du livre du dernier prophète, Malachi. Le nom de Moshe est aussi mentionné, et aussi mentionné comme Eved. Bon, c'est Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et c'est à chaque fois quelque chose qu'on peut expliquer avec ce qu'on vient de développer. Puisque à ce moment-là, la avdout par rapport à Moshe Rabbeinu ne veut pas dire pieux, encore une fois, ou kadosh, etc. Elle veut dire qu'il a un degré de voix de prophétie qui dépasse toute la notion de prophétie, qui est dite par ailleurs, et qui va de pair avec cette fidélité. C'est une très bonne remarque. Je pensais depuis le début, je croyais que je me suis trompé, je croyais qu'il le disait. Le pasouk dit au sujet d'Abraham Avinu, quand Hachem lui dit qu'il va détruire Sdom, il dit mais comment est-ce que je ne pourrais pas dévoiler à il faut que je dévoile ce que je vais faire à Abraham. Je ne peux pas le laisser dans l'ignorance de ce que je vais faire. Parce qu'il a envoyé dans les anges qui viennent chez Abraham, il y en a un qui va pour détruire Sdom. Et Hachem, et la Torah dit, pourquoi Hachem dit à Abraham, pourquoi il lui annonce qu'il va détruire Sdom, et ce qui le concernait, c'était tu vas avoir une descendance. Ce qui arrive à Sdom, c'est autre chose, quoi, a priori. Et Hachem dit, je ne peux pas ne pas dire à Abraham ce que je vais faire, il va devenir un grand peuple, etc. C'est pas sa piété, d'accord. Là, c'est pas. Là-bas, c'est dit parce qu'il va devenir un grand peuple. Donc, il y a d'autres raisons qui font. Alors, c'est pas tout à fait parce qu'il est fidèle, mais à peu près ça. Parce qu'il va devenir un grand peuple, ça veut dire qu'il va devenir mon peuple, il m'est fidèle, en quelque sorte. Donc, on est de nouveau dans ces problèmes de fidélité qui font que, voilà, je ne peux pas ne pas lui dévoiler. Et Abraham est un avis, il est un prophète. Hachem lui dévoile. Il dévoile ce qu'il va faire. Et. Tu peux très bien dire, effectivement, que c'est très proche de ce problème de cet arrachement à l'idolâtrie, arrachement total à l'idolâtrie. Vous savez bien qu'il y a deux. Il y a deux temps, ou bien on dit qu'il a reconnu Hachem à 3 ans, ou que c'est à 48 ans.
Et en fait, 48, c'est le nombre de prophètes. Ils sont tous inclus dans le Mishkan, justement, les Kachim.
Tout est dans tout, et réciproquement. Ouais.
Non, mais c'est quand même étonnant cette comparaison entre 48 et 48. Mais est-ce que.
Je sais pas. Et donc on voit ici cette qualité de Moshe Rabbeinu comme Eved, mais cette Avdout qui se rapporte à la Nevoa. Et donc on voit très bien que c'est au début de la prophétie qui suit celle de Moshe, c'est-à-dire Yoshua. C'est à la fin de la prophétie, c'est Malachi. Zichutrat Moshe Avdi. Comme si, au fond, cette donnée-là de la Avdout de Moshe Rabbeinu, elle mettait entre parenthèse, où elle mettait des bornes à la période de la prophétie des autres prophètes. D'accord, c'est Moshe Avdi Yoshua et Moshe Avdi Malachi. Donc tous les prophètes sont entre Yoshua et Malachi. Et à chaque fois, il y a mention de Moshe qui est mon Eved, qui est, lui, il est le summum de la Nevoa, en quelque sorte, comme si. Il fallait encadrer toute la Nevoa comme étant, bon, c'est entre, enfin, comme quelque chose de qui vient remplacer la Nevoa de Moshe, parce qu'il n'y a plus de Nevoa comme celle de Moshe Rabbeinu. ça veut aussi dire que cette prophétie, toute cette prophétie entre Yoshua et Malachi, elle n'englobe pas celle de Moshe Rabbeinu. Ou si vous préférez, Moshe Rabbeinu entoure cette prophétie comme une forme de parenthèse, quelque part. C'est... Que c'est un pattern? Oui, enfin, Moshe Rabbeinu, il n'est pas le premier prophète. Mais effectivement, par rapport à cette prophétie qu'il y a entre Yoshua et Malachi, effectivement, là, donc lui, il est premier par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il ouvre? Ben justement, le problème, c'est est-ce qu'il faut considérer qu'il a ouvert quelque chose, puisque ce qu'il a ouvert, il n'y a que lui qui l'habite, cette prophétie-là. Et la raison pour laquelle la prophétie de Moshe est différente, c'est parce que cette prophétie, c'est la Torah et qu'il n'y aura pas de, il n'y a pas de deuxième Torah. Donc, c'est pas, on n'a même pas besoin de dire que personne ne sera jamais à la hauteur de Moshe en termes de sainteté ou de piété, etc. C'est pas ça le problème. C'est en termes de nevoua. La nevoua de Moshe Rabbeinu, comme elle est Torah, personne n'aura jamais plus jamais ce type de nevoua, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y aura une nouvelle Torah. C'est, d'une certaine manière, vous savez bien que il y a des lectures qui disent que on a dit à Moshe Rabbeinu que ce qu'il faisait pour le peuple c'est très bien, mais qu'on pouvait faire mieux, que Shmuel Hanavi fait mieux, parce que là, dit la Gemara, non c'est un Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu lui siégeait au milieu du camp des Bnei Israël, mais tout le monde devait venir à lui. Alors il siégeait, comme disait Yitro, mais tu tiendras jamais le coup, parce qu'il siégeait tout le temps. Il était complètement au service du clan Israël, seulement il fallait au moins venir à lui, en quelque sorte. Alors que Shmuel, c'est lui qui allait chez les gens. Donc on lui dit, on peut faire mieux que toi. Shmuel, lui, il va chez les gens. C'est-à-dire, il est encore plus au service du clan Israël que toi. Parce que toi, le clan Israël doit bouger pour venir chez toi. Et Shmuel, lui, c'est lui qui bouge. Le clan Israël n'a pas besoin de bouger, c'est lui qui va là-bas. Donc on voit que, de ce point de vue-là, Shmuel est plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais il n'empêche que la nevoua de Moshe est plus élevée, et la fidélité de Moshe, autant Avdi Moshe, sa personne n'est arrivée à ce niveau-là. Tous les Nevim sont Avadim, mais Moshe, il est Neman Bechol Beti. Cette ambiguïté. Oui. Hachem pourrait très bien ne pas lui dévoiler. Un roi, effectivement, peut faire autrement, mais Hachem pourrait très bien ne pas dire à Moshe.
Non, mais c'est cette analogie avec
le roi. Oui.
Ça rajoute à l'ambiguïté du mot Eved.
Oui, je me demandais si c'est vrai que les deux sens du mot Eved sont, c'est des sens distincts. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pont à faire, bon, avec une différence, mais quand même un pont à faire entre le Eved qui est totalement au service de son maître et qui par conséquent est dans son intimité aussi, et la Avdout au sens de Moshe Rabbeinu, bon, qui est la fidélité, qui n'est pas en termes, comme on l'a dit, pas du tout en termes de piété ou de sainteté, mais c'est au sens du niveau de prophétie, en quelque sorte. Au niveau de prophétie, c'est-à-dire il y a quand même une forme d'intimité aussi. Une forme d'intimité, non pas au sens de la piété, ou si vous préférez, qu'est-ce que donne, est-ce qu'on a vu que, qu'est-ce que donne la avdout de Rav Hanina? Ça lui donne un pouvoir, une capacité de prier. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est dans la relation de l'homme vers Hachem. Et la avdout de Moshe, c'est dans la relation de Hachem vers l'homme. C'est Hachem qui dévoile à Moshe. Et dans la prière, c'est Hachem, c'est l'homme qui s'adresse à Hachem et qui peut obtenir quelque chose d'Hachem. Alors, c'est simplement, ce qui se passe, c'est que lui, il peut obtenir une réponse d'Hachem, mais il n'aura pas tout ce que Hachem dit. Tandis que Moshe Rabbeinu, bien sûr, on voit très bien que la prière de Moshe Rabbeinu a été efficace. Si quoi que ce soit n'a jamais été efficace, on voit bien qu'il a sauvé le clan d'Israël en permanence par sa prière. Et pas par. C'est pas par son niveau de nevoie. C'est en priant Hachem qu'il a sauvé le clan d'Israël. Mais lui, donc ça va de l'homme vers Hachem comme le Eved, mais en plus ce qu'il a, c'est que Hachem, à la limite, c'est comme l'homme dit tout ce qu'il veut à Hachem, d'accord, mais Hachem lui dit tout. C'est une espèce de. Ce qu'il y a en plus, c'est la réciprocité, en fait. Bon, ça veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise le même mot? Parce que finalement, être Eved, au sens de la pranina, au sens de la piété et de la sainteté, c'est mettre en marche un processus qui commence par l'homme et qui obtient éventuellement la réponse d'Hachem, donc qui met en marche quelque chose qui vient de l'homme. Ça, Moshe Rabbeinu sait le faire aussi. Est-ce que Moshe Rabbeinu, selon Moshe Rabbeinu, bénéficie en quelque sorte? C'est que Hachem lui-même prend l'initiative et lui parle à lui sans que Moshe Rabbeinu ait demandé quoi que ce soit, en quelque sorte. Donc c'est si Eved dit quand même il dit la relation qui existe entre l'homme Eved et Hachem, c'est une relation dans les deux sens, mais initiée seulement que Hachem répond à l'homme. Ça, Hachem répond aussi à Moshe Rabbeinu. Seulement, il y a aussi des situations dans lesquelles c'est Hachem, qui prend l'initiative de parler à l'homme. Ça, hein, après Nina, enfin, le Eved dans l'autre sens, il ne l'a pas. Et donc, il y a quasiment une forme de réciprocité, de fidélité au sens de. Il est plein pied dans ma maison, quelque part. Mais à la limite, je lui parle comme il me parle. Pas seulement je lui réponds. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que le Eved, la pranina, le Eved selon la piété et la sainteté, Hachem lui répond. Et le Eved dans la version de Moshe Rabbeinu, Hachem lui répond aussi, c'est vrai, mais Hachem lui parle. Il lui parle. Alors on me dirait, mais tous les prophètes, Hachem leur parle. Effectivement, tous les prophètes ont ce niveau de fidélité. Chez Moshe Rabbeinu, c'est le summum, en quelque sorte. C'est autre chose.
Pourquoi est-ce que, par ailleurs, il faut faire attention à ne pas être trop proche de son maître?
Parce que, justement, si vous voulez, pour. On dit, je crois que c'est Goethe qui dit ça, je crois qu'il dit qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il y a cette intimité qui fait que, bon, on le voit dans toutes les situations et En général, il n'y a pas de grand homme. Et faire attention de ne pas être trop proche de son maître, c'est seulement dit dans le cas où on ne saura pas gérer éventuellement les ambiguïtés dans la conduite du maître. C'est-à-dire que des fois, le maître pourra dire ou faire des choses qui sont ambiguës, et il faut que l'élève puisse les avaler. Puisse...
Oui, mais si on dit ça du rapport maître-élève, à force du rapport, on dit que le marché peut avoir avec.
Justement, et je vous dis, c'est seulement dit quand on ne peut pas le gérer. C'est bien connu que même Rabbi Akiva lui-même, il l'a fait, ensuite on le lui a fait, il est allé sous le lit de son maître pour voir comment il se conduisait dans l'intimité conjugale. Donc, on peut dire... Oui, non, mais seulement, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu plus exactement, à ce moment-là, ils savaient le gérer. Ça n'est possible que si tu sais gérer ça. Parce que la Gemara, elle raconte que l'élève, il a pensé que son maître, ce qu'on disait, c'est incroyable. Il avait du mal à... Mais bon, il a su gérer. C'est ça le problème, je pense, dans ce problème de l'intimité. Alors on dit en général, il ne faut pas être trop proche parce qu'on pense qu'on ne sait pas le gérer. Mais... Quand le maître a dit à son élève, mais pourquoi tu fais une chose pareille, il répond, Torah Yves Elimod Anitzarir, c'est la Torah, et je dois apprendre, donc je suis prêt. C'est-à-dire, je sais que c'est de la Torah, tout ce que je vais voir, et il faut que j'apprenne.
Hmm?
Oui, c'est-à-dire que, une fois qu'il. Mais à ce moment-là, il peut entrer dans l'intimité. Oui, c'est pas, c'est vrai, c'est jamais les débutants qui font ça. Il voit son maître comme la Torah. Alors peut-être qu'il ne faut pas être trop proche du maître tant qu'on ne le voit pas comme la Torah.